Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Apollonia, comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, merci. Et toi?
Ça va? Super. On va parler leadership. Et sans doute que la première question qui se pose, et je pense que la majorité des gens se posent parce que c'est majoritairement pas le cas des gens, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir un nom comme celui de Poilane?
Pour moi, mon nom de famille est un vrai objet de fierté parce qu'il représente trois générations de boulangers. Et c'est aussi tout le travail de mon père pour construire son entreprise que j'ai en tête quand je pense à mon nom de famille. Cela dit, mon nom de famille combinant l'idée du poil de l'âne, quand t'es dans la cour de récré au primaire, c'est pas le prénom, enfin le nom de famille le plus facile à porter.
Ah, j'avais jamais pensé à ça. C'est fou.
Ouais.
Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire du fait que tes parents soient décédés dans un accident d'hélicoptère. T'as, par définition, récupéré l'entreprise très tôt. T'avais quel âge ?
J'avais 18 ans. Mais j'avais 18 ans, le bac en poche. Mes parents sont décédés dans un accident d'hélicoptère. Et à l'époque, je finissais mon apprentissage en boulangerie. Je travaillais au fournil. Et d'une certaine façon, du jour au lendemain, au lieu de descendre au fournil, je suis montée dans le bureau de mon père. J'avais prévu de prendre la suite de mes parents, mais clairement pas aussitôt. Je faisais une année off avant d'aller à l'université. Donc, j'ai poursuivi cette année off et je suis quand même allée à l'université en partageant mon temps entre Paris et Boston.
Parce que t'étais à Harvard. Comment on fait quand on a 18 ans pour gérer une société comme Poilane? Enfin, je veux dire, c'est...
Oui, alors, donc, pour te remettre dans le contexte, mes parents décèdent, je me retrouve à la tête de l'entreprise. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. Il y avait l'évidence de la reprise, puisque j'avais ce projet dans le temps. Il y avait une équipe, celle que mon père avait mis en place et qui m'a soutenue dans mes premières années. Et puis, il y avait les amis de mes parents qui, eux aussi, ont été des soutiens pour m'aider et m'accompagner à devenir le chef d'entreprise, trouver ma place à la tête de l'entreprise. Et c'est cette alchimie de circonstances qui a fait que, en la circonstance, j'ai pu sereinement prendre la suite de mes parents, envisager de passer 4 ans à faire des allers-retours entre Paris et Boston pour faire mes études universitaires, compléter avec une éducation supérieure ce que mon père m'avait appris depuis que je suis toute petite sur le terrain. Mon métier, la boulangerie, quels sont ces différents métiers en dessous de, entre la production, la vente, qu'est-ce qui fait le quotidien de notre métier, le grain, la fermentation. Et ce sont toutes ces choses-là que j'ai pu avoir comme bagage lorsque j'ai pris la suite de mes parents et que j'ai complété avec une expérience terrain avec un genre de baptême du feu d'une certaine façon.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu me disais, c'est que ce qui a facilité le mouvement, c'est que ton père avait un peu prévu aussi ce passage, quelque
part. Tout à fait, oui. Je pense qu'une des grandes forces ou des grands atouts que j'avais dans ma poche lorsque mes parents sont décédés, c'est qu'ils avaient prévu l'éventualité qu'ils pourraient mourir ensemble. Et ça, c'est en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, mais je le vois autour de moi avec mes copains qui sont parents, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, pas agréable, qu'on n'a pas envie d'envisager, mais qu'il faut de façon très pragmatique envisager et prévoir, c'est-à-dire, très basiquement, faire son testament, se dire si on a des enfants, qui va s'occuper de nos enfants en cas de décès, mais pour une entreprise, qui est-ce qui va gouverner l'entreprise? Mon père avait œuvré à cela et surtout avait une bonne équipe, et c'est ce qui a facilité grandement mon travail lorsque, avec son équipe, j'ai pris la tête de Poilane en 2002.
Et alors justement, quand on parle de la gouvernance, c'est quoi l'impact pour toi? Parce qu'en fait, j'imagine que quand on prend la tête d'une entreprise comme de Poilane à 18 ans, on s'appuie sur toutes les personnes que ton père avait prévues finalement.
Oui.
Ça a des impacts aujourd'hui sur ta manière de diriger la boîte, non?
Tu as raison, Greg. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Effectivement, il y a l'entourage qui t'apporte leur savoir, leur expérience, là où elle te fait défaut, puisque j'avais 18 ans, le bac en poche. Mais il y a aussi, comme c'était le premier fonctionnement que j'ai connu, c'est aussi, ça forge aussi une certaine façon de dialoguer et d'avancer dans mon management au quotidien, dans mon travail d'entrepreneur, de savoir m'entourer, que ce soit avec des pairs, avec des mentors, avec des experts. Et c'est, pour moi, je pense que c'est important d'avoir ce collège d'expériences, de personnes, de regards, et qui peut nourrir mes envies, mes convictions, qui sont autant de miroirs, et le mot français va me perdre, mais de sounding board avec lequel je peux dialoguer pour construire mes directions.
Et alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'allais faire le rapport entre le métier très terrien, j'ai envie de dire, de boulanger et Harvard. Mais en fait, là, ce que tu es en train de me faire, c'est aussi un lien entre la culture française et la culture américaine. Parce que dans la culture française, le leader, il doit tout savoir. Et finalement, il n'a pas trop le droit. Enfin, il n'est pas supposé avoir des aides. Alors que tandis que quand tu regardes aux États-Unis, en fait, ils ont plein de conseils dans tous les sens. Et ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement, par la force des choses, tu as eu cette culture américaine, plus ou moins, mais en tout cas, de se dire, j'ai un collège de personnes qui vont m'accompagner, qui vont m'aider, parce que je ne peux pas tout savoir, et en réalité, il n'y a aucun patron qui sait tout. Et je pense qu'il y a une forme de solitude très forte des patrons, des leaders, quand ils sont dans leur position, parce que, effectivement, ils ne savent pas tout, et quelque part, c'est un peu bizarre quand ils ont des consultants ou des gens, pas des consultants, c'est pas la bonne manière de le définir, je ne pense pas, mais plutôt des gens sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer.
Des conseils,
finalement.
Ouais. Non, tu as raison, et c'est à la fois ma culture franco-américaine, puisque je suis française par mon père, américaine par ma mère, mais c'est aussi effectivement la façon dont j'ai pris la suite de mes parents, qui a aussi façonné ce regard-là. Et tu faisais le rapport un peu plus tôt entre un métier où on utilise nos mains, la boulangerie, et mon quotidien de chef d'entreprise. Et je pense que justement, ma connaissance de mon métier, la boulangerie, m'aide énormément dans mon quotidien de chef d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es au fournil, tu as une idée de la direction et de la feuille de route, de ton chemin de fer, les différentes étapes de la production. Là, tu mélanges les ingrédients, tu les laisses reposer une première fois, tu pèses, tu façonnes, tu laisses reposer une deuxième fois avant d'aller au four, et puis ensuite de laisser reposer les pains qui sont cuits avant de pouvoir les vendre ou les déguster. Mais à chaque fois, cette trame, elle va devoir être ajustée selon la saison, selon le temps qu'il fait dehors, ou même ton humeur, puisqu'elle impacte la façon dont tu vas travailler la pâte. Et ça, pour moi, c'est vraiment une bonne métaphore de mon travail de chef d'entreprise. Et au cœur de notre façon d'envisager notre production chez Poilane, c'est cette idée que la main de l'homme est intelligente, elle sent, et plus globalement nos cinq sens qui développent en final notre intuition de boulanger, notre bibliothèque de référence, c'est autant d'outils dans lesquels on peut puiser pour se dire, tiens, là on voit qu'il fait un petit peu froid dehors, la pâte va avoir un peu plus de mal à pousser, donc quand on fait ça, on sait qu'on a tels outils dans notre attirail pour aller de l'avant, pour compenser et pour arriver en finale à la même belle miche de pain d'à peu près 2 kilos devant toi, en sachant que la réalité pour fabriquer cette miche va être très différente d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre.
Est-ce que tu crois, du coup, comme ça peut se faire, je ne sais pas si ça se fait toujours au Japon, qu'un patron, un leader d'une boîte, il devrait reprendre et passer par les différentes étapes de l'ouvrier, de refaire un travail un peu manuel, revenir dans la réalité de l'entreprise?
Moi, j'y crois beaucoup, au moins pour mon métier, puis je mets ça avec des pincettes, c'est aussi mon... mon métier qui me le permet. Mais oui, c'est super important. Un samedi matin, typiquement, tu vas me retrouver au Fournil parce que, alors, au-delà du fait que j'aime mon métier, j'ai aussi envie de mettre la main à la pâte, tant dans une logique de recherche, développement, d'exploration, que tout simplement pratiquer et développer mon geste et mon expertise. Mais c'est aussi passer du temps dans ma boutique et de servir mes clients, comprendre les contraintes de mes vendeuses, les opportunités d'expliquer notre métier à nos clients, faire des tournées de livraison. Toutes ces petites choses-là, je les ai faites pour beaucoup d'entre elles quand j'étais plus petite, pour gagner mon argent de poche, mais c'est quelque chose que je continue de pratiquer parce que mon métier me le permet, certes, mais c'est effectivement quelque chose que je trouve assez important.
Et donc, tu continues de faire, c'est ça qui est le plus formidable. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet aussi peut-être de rester, pas tant les pieds sur terre, il y a bien sûr cette notion, mais c'est aussi au plus proche des équipes, de leur réalité du quotidien, en fait.
Ancré dans une réalité. Mmh. Mais il n'y a pas de... C'est la réalité de mon métier et de mon entreprise. Et puis, Poilane, ça reste une petite entreprise familiale. On a 5 boutiques à Paris. On a une vingtaine de tournées de livraison pour nos revendeurs, nos restaurateurs. Mais on reste une entreprise avec 150 personnes où je peux me permettre de faire ça. Et c'est pas forcément la réalité de toutes les équipes, de tous les secteurs d'activité. Mais en tout cas, je pense que sous une forme ou sous une autre, à un moment donné, il faut comprendre ce que l'on fait.
Parce que je vois, dans beaucoup d'entreprises, tu as des sortes de stages au service client, donc ils passent une heure ou deux à répondre aux clients, mais c'est pas la même chose parce que c'est quasiment j'ai l'impression que c'est pas aussi profond parce que toi quand tu le fais déjà c'est plus régulier, c'est pas 2 heures, et puis c'est beaucoup plus réel, c'est-à-dire que tu te mets dans les conditions réelles, t'es pas en train de te tester.
Ça c'est vrai, après c'est aussi qui je suis. Mes parents ont insufflé en moi et en ma sœur une forme de curiosité pour ce genre de choses. Nous, on adore découvrir, on adore apprendre, et c'est vraiment ce qui fait que, même si tu vois, tu me parachutais demain dans le service client que tu m'évoquais à l'instant en disant « Ok, ça va être 2 heures, etc. » Je sais que ça, j'ai adoré ce moment parce que je vais me dire « Ok, alors en amont, je vais me dire « Ok, comment ça va être si j'ai que 2 heures, comment est-ce que je vais faire un... » Quelles sont toutes les questions que je vais me poser? Quelles sont celles qui sont les plus importantes pour être sûr que ces 2 heures soient soient pas juste un pinsomme.
Oui, c'est ça. Pour faire comme si.
Pour faire comme si, parce que c'est pas l'objet, quoi. Ça
non,
sert à rien.
C'est clairement pas.
Ne serait-ce que pour les équipes, en plus, c'est insultant sur le terrain parce qu'elles, elles partagent leur quotidien. Si toi, t'as pas d'attention pour elles, en fait, tu passes complètement à côté du truc.
Exactement. Je t'ai posé la question un tout petit peu avant, mais pas vraiment, et donc je vais te la reposer mieux. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'université, par rapport à l'expérience du terrain? Tu vois, parce qu'en fait, je sais pas quelles études avait fait ton père ou ta mère.
Ouais, alors, mon père était autodidacte au sens où mon grand-père l'a sorti de l'école quand il avait 14 ans. Et donc, il avait cette soif d'apprendre, mais il a fait tout son apprentissage plus scolaire, on va dire, en dehors des écoles. Mais pour moi, et c'était un sujet assez régulier entre mon père et moi, c'était de se dire, ce que je cherchais avec mes études universitaires, c'était un bagage technique que j'aurais le temps d'apprendre sur le terrain, mais que je pouvais apprendre de façon plus synthétique, peut-être plus poussée ou plus fine dans une école, dans une université. Et donc, c'était là un petit peu ma motivation. Après, ce que j'ai eu à Harvard, c'était l'échange avec un corps étudiant, avec des intérêts très divers, et ça c'est vraiment un carrefour d'intérêts, de culture, d'envie qui était incroyable.
Et le choix de l'université américaine versus université ou école française?
Alors, principalement motivé par le fait que je suis franco-américaine.
Ouais, effectivement.
Maintenant, les études aux États-Unis ne requièrent pas une spécialisation immédiatement. Et ça, je pense que c'était attirant tout autant que la vie sur le campus universitaire.
Ouais, et c'est vachement important. Il y a plein de trucs dans ce que tu as dit. Et moi, ce que j'ai remarqué quand je suis venu à la boutique, c'est la proximité avec les équipes. Et on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que 150 personnes, ça reste une PME, techniquement. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne taille. Tu sais, tu connais le nombre, je sais pas si tu connais le nombre de Dunbar, tu vois, où c'est 150 personnes, ça fait un village, et qu'après, en fait, techniquement, les gens ne peuvent plus se connaître vraiment Et du coup,
oui, ou l'idée que tu peux avoir une réunion, il ne faut pas qu'il y ait plus que la taille, que si tu divisais une pizza ou bref. Je pense que c'est effectivement une bonne taille. Après, 150, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais après, c'est aussi la taille des sous-équipes à l'intérieur. Et effectivement, la proximité que tu as avec tes équipes dépend de ta personnalité, dépend, j'imagine, aussi de ton industrie. Si tu as des différentes équipes aux quatre coins du monde, bah forcément, tu ne peux pas avoir la même proximité. Mais c'est vrai que pour moi et dans mon industrie, l'agroalimentaire au sens large, la boulangerie plus particulièrement, on nourrit les gens, on nourrit une communauté, on nourrit un quartier. Et donc, dans l'énoncé, il faut qu'il y ait cette proximité. Et pour moi, il est là, le fil rouge.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable chez toi, parce qu'en fait, ça paraît, pour toi, ça te semble naturel, mais moi, je vois beaucoup de patrons de boîtes qui sont un peu déconnectés, en réalité, de la réalité de ce qu'ils vendent. Et Free, par exemple, est très connu parce qu'ils faisaient venir des clients dans le comité de direction pour parler avec des clients. Moi, j'ai vu, et je fais pas mal de marketing, des marketeurs qui n'utilisent pas le processus classique du client et du coup, qui sont complètement déconnectés de la réalité de l'usage de ce qu'ils proposent aux clients. Et en fait, ça peut sembler un peu fou, mais y a une déconnexion réelle entre des leaders, des marketeurs, des gens qui travaillent dans une entreprise de manière plus générale. Et puis, le service, le produit qu'ils vendent. Et en fait, toi, ça te semble sans doute naturel, mais ce n'est pas si classique en réalité.
Mais je peux tout à fait imaginer comment ça peut ne pas être classique selon les industries dans lesquelles tu es. Le cœur de ce que je fais, c'est je prends des grains et avec la magie de la fermentation, je fais du pain. Je fais des biscuits, je fais des pâtisseries boulangères aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais quelque chose qui est appréhendable par mes mains et que je suis capable de comprendre et de mener à bien. Et donc du coup, je pense que la nature même de ce que je fais m'incite à avoir cette proximité. Je pense pas que ce soit forcément vrai de toutes les industries ou de tous les métiers, mais je pense que mon métier y fait pour beaucoup.
On parle beaucoup de la fin des organisations pyramidales. Comment c'est organisé chez Poilane? Est-ce que c'est très pyramidal?
Alors, pour moi, pour Poilane, dans nos équipes, il y a globalement trois niveaux dans notre hiérarchie. Il y a mon équipe de direction et moi. Ensuite, on a des responsables d'équipe et ensuite, on a les équipes. Ça représente les différents métiers et leur organisation. Si on était plus gros, je pense qu'il y aurait peut-être une strate ou deux de plus ou des spécificités. Mais après, c'est aussi ma nature. Le manager du manager, c'est pas très compréhensible pour moi. À un moment donné, c'est nécessaire selon les tailles d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où j'aime bien avoir les mains à la pâte. Les mains à la pâte, plutôt.
Mais en même temps, je reprends souvent cet exemple, mais Richard Branson, chez Virgin, il s'est rendu compte que comme la taille, moi je dis souvent, et j'y crois assez, que la taille déresponsabilise, il avait rescindé ses équipes en 150 personnes. Donc en fait, chaque bout de Virgin devenait des boîtes de 150 personnes parce que sinon tu n'arrives plus à connaître les gens, tu n'arrives plus. Et du coup, il avait. Donc, même pour une grosse boîte, tu peux te dire finalement, peut-être que une bonne idée, je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais ça serait de casser les équipes, entre guillemets, pour en créer plein de petites boîtes, pas en mode Google pour éviter de payer des impôts, tu vois.
Vraiment avoir des différentes unités, ça. En fait, instinctivement, ça a beaucoup de sens. Est-ce que c'est la chose la plus efficace? Est-ce qu'il faut être dogmatique sur le sujet? J'en sais rien. Mais instinctivement, on est humain. Donc, on a une limite à notre capacité d'appréhension d'un espace, à notre capacité à compter quand on voit devant nous quelques plots. Et je pense que cette capacité, nos limites humaines, forcément, elles se traduisent par des limitations sur la compréhension de système. Donc, effectivement, intuitivement, moi, je serais enclin à penser qu'il y a ça.
Est-ce que tu arrives à garder du contact avec chacun des salariés? Et si oui, combien de temps t'y passes? Comment tu fais pour le faire?
Alors, mes compagnons, j'essaye au tant que possible, d'avoir un lien avec mes compagnons et collaborateurs. Compagnons, c'est les personnes avec lesquelles je partage un métier, la boulangerie, la pâtisserie. Et les collaborateurs, les personnes qui animent aussi, une fois que... ou même les personnes qui vendent le pain, les personnes qui livrent le pain. Et j'essaye autant que possible de passer du temps dans chacune des équipes régulièrement pour... Et c'est jamais assez, mais autant que possible pour pouvoir justement comprendre les réalités de chacun, mais aussi de façon les dynamiques de groupe et d'équipe qui sont aussi la composition et l'interaction entre différents individus.
Et il y a, j'imagine. Comment tu prends des décisions difficiles ? Enfin, j'imagine que tu as déjà dû en prendre, nécessairement.
Oui.
Comment tu fais ? Parce que j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, que tu as un lien très humain avec chacune des personnes qui participent à ce qu'est Poilane. Comment tu prends des décisions difficiles ?
Alors, si c'est une décision... À partir du moment où c'est une décision, c'est un choix et il est motivé par des raisons qui sont bonnes ou mauvaises, mais enfin en tout cas qui doivent être prises. On m'avait soufflé ce mot et je le trouve assez juste, c'est que un des métiers du chef d'entreprise, c'est trancher. Et ça, c'est des choix et on les motive et ensuite, ça t'empêche pas d'être humain, de le faire avec grâce, d'essayer de tirer tes équipes ou les personnes avec lesquelles tu dois prendre une décision difficile vers le haut. Et après, nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, on est aussi un humain. Donc, la première fois que j'ai dû me séparer d'une personne dans mon équipe de direction, je savais ce que je perdais, je savais quelle décision je devais prendre. Et ça a été un moment difficile et ça, il faut l'accepter. Mais je pense que le projet de l'entreprise et ensuite d'essayer de le faire avec autant d'élégance que possible, et ça, c'est jamais élégant, c'est jamais agréable. Mais il y a des moments où ce sont des choses et des décisions à prendre et l'idée ensuite, c'est d'avancer.
Est-ce que... On parlait tout à l'heure que Poilane, c'est 150 personnes. Est-ce que tu as une volonté de faire grandir l'entreprise ou tu préfères rester sur une taille, entre guillemets, humaine ou en tout cas de tribu, qui correspond à Dunbar, etc. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé là par hasard ou pas, mais c'est intéressant de savoir. Ou est-ce que tu te dis, je préfère bien faire ce qu'on fait déjà et finalement, je n'ai pas besoin de faire grossir la boîte spécifiquement ?
Alors, moi, j'aime bien utiliser l'image d'un arbre où l'idée, c'est vraiment de grandir plutôt que grossir. Nourrir ses fondations. J'ai à peu près 150 personnes avec lesquelles je travaille au quotidien en France. J'ai une vingtaine de personnes avec lesquelles je travaille à Londres. Mon père avait commencé au tournant du millénium une boulangerie à Londres comme à Paris. Je n'ai pas cette obsession de grandir. Je ne me limite pas à 150 personnes. Mais l'important, c'est de nourrir le sens, de nourrir les projets et de construire à partir de là. Mais pour avoir été confrontée aux réalités de copains qui sont en charge de grandes équipes ou d'entendre à la radio « Ouais, telle entreprise avec tant de personnes, etc. » Tu te dis « Mais comment est-ce qu'ils s'organisent au quotidien ?» Et effectivement, je pense que mon instinct, ce serait de me dire que en fait, il y a des unités un peu plus petites à créer pour garder ce lien, garder cette humanité.
Une question aussi, parce que forcément, on parle beaucoup d'écologie, d'agriculture régénératrice. Oui. Comment vous vous positionnez chez Poilane par rapport à ça ? Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il y a aussi cette notion, tu vois, on parle beaucoup de triple comptabilité. Enfin, voilà, on est en train de modifier un certain nombre de choses.
Nous, notre métier, c'est on prend du grain qui est moulu en une farine. Ce grain, il doit venir de quelque part. Donc, pour mon grand-père, ce qui était important, c'était de travailler avec les meuniers pour alimenter une certaine qualité de farine. Elle est moulue sur meule de pierre, ce qui n'échauffe pas le grain. Mais là, je rentre dans des aspects techniques, mais qui ont aussi des implications. C'est-à-dire que c'est la façon dont on le fait, on requiert un certain respect du grain. Donc, ben, de façon assez systémique, il y a tout un tas d'externalités positives que créent ces méthodes. Mais depuis que mon grand-père a fondé Poilane en 1932, ben, en fait, ce lien entre le meunier et puis en amont de ça, l'agriculteur, c'est quelque chose que l'on cultive pour alimenter les prochaines saisons, les prochaines moissons de grains. Et donc, on parle d'agriculture, mais c'est aussi le sol avant ça. Et comment est-ce qu'on nourrit un sol qui est vivant? C'est bien sûr la qualité des variétés. Donc des grains, des différentes céréales que l'on travaille. Et toute cette chaîne de valeur-là, on la construit déjà en la comprenant, de bout en bout. Et pour moi, ça commence avec le sol. Il y a le grain, il y a la façon dont tu stockes le grain, il y a la façon dont tu moules le grain, il y a la façon ensuite dont toi tu travailles ce grain dans ton fournil. Et parce que l'on a 90 ans, eh ben, déjà on a pu commencer ce dialogue il y a longtemps, on a pu prendre des choix qui seraient plus difficiles ou pour lesquels la marche serait plus haute si on commençait de zéro aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que l'on entretient avec un dialogue avec nos fournisseurs, donc nos meuniers, et en amont de ça, les agriculteurs.
Et si je me trompe
pas... Et c'est un work in progress.
Ouais,
c'est sans fin, et il faut nourrir et alimenter cette conversation, parce que ce qui est chouette avec mon univers, c'est que je travaille au cœur de la ville pour fabriquer quelque chose qui rapporte quelque chose intrinsèquement de la campagne. Et donc, ce lien entre la terre et le cœur de ville, le cœur d'un quartier, il est assez évident pour moi, et c'est une forme de responsabilité d'apporter cette lecture à mes clients dans les produits que je fais, mais aussi de pouvoir, tout au long de la chaîne, alimenter l'évidence de la qualité de cette recherche, de ces développements.
Et si je ne me trompe pas, tu sais, en fait, en ce moment, on parle beaucoup, enfin en ce moment, depuis un siècle, on parle d'optimisation, de performance, et en ce qui concerne le pain, aujourd'hui, on a créé des processus qui permettent d'optimiser la production du pain. Et ce n'est pas des méthodes que vous avez appliquées, si je ne me trompe pas.
Non, tu as raison. C'est vrai que si tu regardes, et a fortiori après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait d'autres enjeux aussi à l'époque. Hein. Il fallait nourrir beaucoup de gens alors qu'il y avait eu beaucoup de destruction. Et puis il faut garder en tête qu'effectivement en 1900, un Français moyen mangeait entre 600 et 900 grammes de pain par jour et par habitant. Donc si tu te dis que ma miche de pain d'un kilo neuf, c'est à peu près ça, la personne mangeait à peu près la moitié de cette quantité de pain par jour, et c'était l'essentiel de ce qu'elle mangeait. C'est te dire à quel point le pain est une nourriture première, une nourriture élémentaire, mais aussi la responsabilité du coup de nourrir quelque chose de qualitatif. J'espère que je ne vais pas trop prendre de tangentes, mais du coup, ce souci-là, pour moi, il reste actuel. C'est, mon père le disait en ces mots, il disait qualité plutôt que quantité, intention plutôt qu'extension. Et c'est vrai qu'au cœur de notre façon de fabriquer le pain, on n'est pas dans une optimisation, mais dans une écoute de la pâte, du grain, pour arriver à quel est le bon geste. Et de ce point de vue-là, on utilise beaucoup nos mains parce qu'il y a finalement peu d'outils qui perfectionnent ce que l'on sait faire et ce que l'on sait ressentir avec nos mains. C'est pour ça que quand on forme les personnes qui vont prendre des postes en boulangerie, notre système d'apprentissage, il est basé sur cette appréhension avec nos cinq sens, avec nos mains. Et toute notre... On choisit d'utiliser nos mains quand... S'il y avait des machines qui étaient suffisamment sophistiquées pour remplacer nos mains, j'aurais aucun problème à le faire. Mais en réalité, à date, nos mains ont une vraie sophistication que les machines n'ont pas. Et ensuite, on a utilisé beaucoup de machines ces dernières décennies dans la boulangerie parce que ça facilite, parce que ça expédie le processus. Mais souvent, trop souvent, ou en tout cas jusqu'à présent, ça se fait au détriment de la qualité du produit. Alors, il y a des pâtes où tu t'en fiches un peu, mais qu'est-ce que tu veux nourrir? Les prochaines générations ou juste sustenter l'immédiateté du moment? Elle est là, la question.
Ouais, et ça, c'est une question... Enfin, il me semble, pour l'agriculture, c'est une question essentielle.
Essentielle. Et c'est pour ça que c'est important, quand on parle d'agriculture, de parler des sols, déjà. Parce que tu peux mettre le meilleur grain de la terre, mais enfin, si ton sol est mort, ça ne sert à rien.
et c'est 70% des sols donc, qui sont morts, en l'occurrence. Ouais. Donc, à cause de ça, c'est-à-dire dans cette logique performative, court terme, qu'on a fait post-Seconde Guerre mondiale, mais dans laquelle on est toujours...
On n'a pas évolué sur ce système-là. Et tu as raison.
En courant, parce que grêle ici, parce que sécheresse là. Ouais. Et en fait, on aggrave le problème.
Et on aggrave le problème. C'est le bocage où on se dit « Ah, c'est cool, c'est plus facile pour la moissonneuse-batteuse de passer dans un grand champ ». Oui, c'est vrai, mais ça facilite aussi toutes les tempêtes parce que le vent peut circuler plus facilement et pas arrêté par les paysages. Mmh, mmh. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 89, 99 avec des tempêtes.
Qui détruisent tout. Ce que tu disais sur le processus de passer, d'utiliser ses mains, est-ce que c'est un processus que vous utilisez pour l'intégralité des salariés, c'est-à-dire une comptable, un comptable, ou est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui sont en vente? Comment ça marche?
Chacune des personnes qui intègrent nos équipes sont initiées à l'univers de la boulangerie.
D'accord.
Ne serait-ce que visiter, comprendre, appréhender comment est-ce que l'on fait le pain. Je te rassure tout de suite, on ne fait pas la comptabilité à la main, on a les outils, on a les logiciels, on vit au XXIe siècle, et tant mieux, et c'est génial. Mm. Et c'est ça aussi toute ça c'est ce que mon père appelait la rétro-innovation. Je le reprends un peu au niveau macro, au niveau de Poilan, mais c'est le meilleur de techniques passées, le meilleur de techniques présentes pour aller de l'avant. Mm.
Et peut-être que, enfin moi c'est comme ça que j'envisage les technologies, c'est que les technologies en particulier, alors je pense à l'intelligence artificielle, mais on pourrait le prendre de manière un peu plus basse sur les logiciels, ça permet de faciliter pour se renforcer sur l'humain finalement. Enfin moi c'est comme ça que j'envisage.
Mais 100%, je suis complètement en phase avec toi là-dessus.
Et pas pour optimiser
Non, c'est pas une question d'optimisation. Mmh. Je pense que tous les gestes répétitifs ou la main de l'homme n'a pas de plus-value, sont amenés à disparaître. Et tant mieux, parce que ça peut nous permettre de valoriser nos intelligences en tant qu'humains.
Et en parlant d'humains, il y a une question autour, naturellement, de la relation client. Ce que tu disais, toi, c'est que tu fais encore des tournées, tu vas encore en boutique. Comment tu t'assures... En fait, la relation client, c'est un truc intéressant parce que souvent, dans les entreprises, le client ou la relation client, elle est considérée comme un coût. Donc, naturellement, on essaye de le réduire parce qu'en fait, voilà. Et la relation client, on l'envisage aussi souvent comment tu génères du financier court terme. C'est-à-dire comment en fait, je peux faire un programme de fidélité, je dis n'importe quoi, avec des petits bons qui vont que ça va permettre de faire de la fidélité, et du coup, ça va permettre de faire du court terme, alors qu'on sait que pour créer de la relation, comme dans une relation humaine naturelle...
Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, la relation client, c'est l'opportunité de créer du lien, de nourrir ta communauté, et c'est une petite graine que tu plantes et qui va pas forcément germer tout de suite, voire pas du tout, parce qu'on peut aussi se tromper, faire des erreurs, mais c'est un pari d'avenir. Et je pense que, pour moi, mon but et la spécificité dans notre entreprise, c'est qu'au-delà de faire du pain, des biscuits, des pâtisseries, boulangères, on a une vraie culture du pain. Et cette culture du pain, on veut la partager, on veut la transmettre, on veut qu'elle permette de faire grandir nos clients. On n'est certainement pas suffisamment bon, c'est quelque chose sur lequel on travaille quotidiennement, mais c'est surtout une aspiration pour se dire, mais en fait, le plus nos clients seront ambassadeurs, et plus ils comprendront ce que l'on fait et pourquoi on le fait, le plus, effectivement, sur le long terme, certainement qu'on fidélisera nos clients, certainement qu'ils seront ambassadeurs. Mais ça, c'est pas... effectivement, c'est peut-être contre-intuitif, mais je pense que pour nous, comme on envisage notre métier comme une forme de lien au-delà du pain physique, mais d'une forme de nourriture... j'allais utiliser que des mauvais mots, mais en tout cas, je veux qu'on nourrisse la culture du pain de nos clients qui nous font confiance de les nourrir avec quelque chose de physique.
Non, mais c'est quasiment nourrir, je vais exagérer un petit peu, mais c'est nourrir le physique, mais aussi l'âme quelque part. Il y a une âme derrière ça.
Complètement.
Et pour moi, ce n'est pas du tout contre-intuitif. Moi, ce que je trouve assez contre-intuitif, et ce que je constate en tout cas dans le marketing, c'est... étrangement d'ailleurs, on a tendance à complexifier toutes ces questions de business, de stratégie, etc. Alors qu'en réalité, la relation client, c'est comme une relation humaine. Tu vois, les clients, ils veulent pas des trucs hyper complexes. Et on sait bien que dans une relation humaine de personne à personne, ben en fait, si tu vois les personnes, que tu passes du temps avec elles, que tu prends le temps de les écouter, de vraiment les écouter, etc., ben tu crées du lien. Et ça, c'est extrêmement fort. Tandis que c'est sûr que si tu vois quelqu'un que tu connais pas et que tu lui demandes 50 euros, ça va pas marcher. Enfin, on sait bien que ça marchera pas. Et pourtant, alors ça fait rire, bien sûr, mais en même temps, c'est ce que font les marques.
Bien sûr.
Quand elles font de la relation client, 100%. Ce qui est très, très bizarre. C'est-à-dire que, alors que c'est du bon sens, enfin, c'est du bon sens, je sais pas ce que veut dire le bon sens, mais en tout cas, c'est quand même très logique. C'est pas du tout contre-intuitif. C'est logique dans notre vie au quotidien. Et dès qu'on arrive dans l'entreprise, c'est comme si on mettait une casquette différente et qu'on comprenait plus comment fonctionnaient les relations humaines. Parce qu'on cherche sans doute cette histoire de performance, d'optimisation,
ouais.
De KPI, etc.
Oui, complètement. Mais je suis complètement en phase avec ta lecture. Je pense que pour nous, et le regard que mon père portait sur son métier, cette culture du pain, le fait que le pain soit en lien à peu près tous les domaines de la connaissance, c'est quelque chose qui lui a fait comprendre que son métier était un métier incroyable. Et c'est quelque chose qui nous a transmis et que moi je veux pouvoir partager. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, je pense que je suis pas dans ce paradigme-là, et tant mieux. Et de façon plus systémique, ma boulangerie a à cœur de partager, transmettre cette culture du pain. J'ai écrit des livres plus parce que j'ai envie de partager mon amour pour mon métier qu'autre chose. Tu me diras, c'est peut-être égoïste, mais tant pis. Mmh. J'avais envie de partager que quand j'arrive à garder une miche de pain plus de 10 jours fraîche, alors que mon pain, on peut le garder 3, 4, 5 jours, mais c'est vrai que si tu sais comment le garder correctement parce que tu as les bonnes conditions, en fait, tu peux le garder beaucoup plus longtemps. Et tu te dis, c'est génial. Enfin, ce petit fruit de la terre, c'est cette petite céréale qui a été conservée pendant une année, qui fait de la farine, qu'une personne au fournil a façonné pour en faire une miche de pain. Et ce petit morceau de pain nourrit mon estomac et je le garde, c'est génial.
Alors, c'est quoi les tips pour garder une miche de pain
Alors, très simple. apprendre et dans l'environnement dans lequel tu le gardes. Le pain, il aime bien être dans un environnement tempéré. S'il fait très sec, eh ben, tu vas essayer de le garder dans un environnement qui va garder un tout petit peu d'humidité. Peut-être que tu vas mettre un petit torchon légèrement mouillé. Ou tu peux même, par exemple, j'ai des copains qui, à la montagne, mettent le pain dans un torchon et puis ensuite dans un sac plastique pour rendre le truc un peu hermétique et puis que le pain garde un petit peu de son humidité. Et à l'inverse, si tu es dans un endroit où il fait très humide, eh ben, tu vas plutôt mettre, tu vas laisser le pain plutôt à l'air. J'ai des copains qui habitent dans des coins où il fait ultra humide et où leur frigo est le coin le moins humide, mais il y a cette bonne hygrométrie, donc eux gardent le pain au frigo. Et donc en fait, il faut juste tester et essayer.
D'accord. Voilà.
Okay. Et juste comprendre que, un petit peu comme nous humains, et c'est d'ailleurs vrai de la pâte aussi, le pain, on doit être à l'écoute de son besoin pour pouvoir le garder le plus longtemps possible.
Mmh. On parle beaucoup de féminisme et de leadership au féminin. Mmh. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Est-ce que être une femme, ça joue sur ta manière de gérer cette entreprise?
Cette entreprise, certainement. Mais je ne me pose pas la question en ces termes-là.
Oui,
et donc, c'est très compliqué pour moi de me dire que j'ai un trait de leadership qui est particulièrement féminin. Oui. Par ailleurs, on discutait de ça en cours de sociaux à l'université. On peut féminiser ou masculiniser des traits, des gestes ou des habitudes. Mais d'abord, ça reflète d'une époque qui n'est plus l'époque contemporaine. Mmh. Et puis, tu peux trouver des contre-exemples. Donc, à un moment donné, tu peux genrer les choses. L'important, c'est peut-être tout simplement d'être juste par rapport à la situation donnée et d'avoir une réponse qui apporte de l'eau au moulin, quoi.
Pour beaucoup d'images du pain, mais c'est exactement ça. Comment tu prends soin des salariés, du coup?
C'est une très bonne question. J'essaye déjà au quotidien de créer un environnement de travail que j'essaye de faire rendre le plus sain possible, de se dire que ensemble, on construit l'histoire de Poilane et que ça doit se faire dans un bon esprit. au niveau de l'équipe, mais de façon plus macro au niveau de l'entreprise, c'est d'être à l'écoute de mes équipes, d'avoir une porte ouverte s'il y a des questions, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des coups de gueule, ou à l'inverse, des moments de joie, célébrer l'arrivée d'une personne dans une famille. Enfin voilà, j'ai pas de recette parfaite, certainement aucune leçon à donner, mais ce que je sais, c'est que c'est très important pour moi que mes équipes se sentent bien. Et parce que je pars du principe où si tu te sens bien, et ben en fait, tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même, ou en tout cas être dans une force qui est créatrice, nourricière, et que je suis pas dans la performance ni dans l'optimisation quand je te dis ça, mais simplement de te dire on est dans un élan positif, un élan où on avance, où on construit, où on nourrit.
En fait, ce que je ressens quand je t'entends parler, c'est que surtout, c'est des valeurs qui sont vraies. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup d'entreprises qui, tu vois, on parle beaucoup d'entreprises à mission, on parle beaucoup des valeurs des entreprises, il y a plein de cabinets de conseil qui vendent ça. Moi, je suis assez convaincu qu'en fait, personne ne peut définir les valeurs de personne. Enfin, il n'y a que soi qui peut, enfin, soi ou les personnes de l'entreprise qui peuvent définir leurs propres valeurs. Et ça ne doit pas être des valeurs qui sont écrites sur une feuille de papier et puis on les affiche au mur pour bien s'en souvenir. Mmh. Logiquement, les valeurs, elles doivent.
Il faut qu'elles soient incarnées.
C'est ça.
Il faut les vivre. Non, mais en plus, c'est des questions qui sont topiques. Chez nous, on se disait, on a eu un problème de serveur et tout de suite, les uns et les autres, on s'est appelés pour se dire, OK, il y a un problème de serveur, comment est-ce qu'on peut pallier au problème, comment est-ce qu'on peut assurer les commandes, etc., etc., etc. Et après coup, avec l'équipe, et notamment ma petite équipe RH, on se disait, il y a des bons réflexes, comment est-ce qu'on s'assure qu'on continue d'alimenter cette bonne énergie-là. Et c'est vrai que tu peux être tenté de se dire, ouais, alors chez Poilane, on fait ça. Ouais, mais bon, c'est pas toujours la réponse adaptée. Et puis surtout, l'idée, c'est plutôt d'alimenter cette bonne esprit d'équipe. Et ça commence tout simplement par, on arrive dans l'entreprise, on dit bonjour, on a un sourire, on est agréable. Et tout ça vient alimenter cette évidence.
Mmh. Et c'est, pour moi, c'est vachement important. Tu parlais tout à l'heure du fait de nourrir les gens du quartier. Mmh. Moi, j'ai la sensation que l'une des problématiques du gaspillage alimentaire, qui est une réalité, c'est un tiers de ce qu'on mange, enfin, ou de ce qu'on achète en l'occurrence, parce qu'on ne mange pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un manque de respect, justement, parce qu'il y a une trop forte déconnexion entre les agriculteurs, donc les gens qui mettent de l'énergie à produire la nourriture qu'on consomme au quotidien, et puis le fait de la consommer. Ouais. Et c'est sans doute lié à la manière dont on l'achète. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez pour s'assurer de ce contact, en fait, on parle papier?
Alors, plein de choses, et je pense que tu pointes du doigt quelque chose qui est très juste, c'est cette déconnexion. Mmh. Et pour moi, ce qui est important, c'est, donc, je prends du grain, je le transforme, sa version farine, en pain, et mes clients le mangent. Donc, il y a très peu d'étapes, finalement, entre le champ et l'assiette. Mais encore faut-il rendre ce lien évident quand tu es au cœur de la ville, entouré d'immeubles. Ce que j'essaye de faire, et ce sur quoi je travaille, c'est évidemment la façon dont j'emballe mes pains, comment est-ce que j'explicite cette chaîne de valeur, mais c'est aussi les lieux dans lesquels je vends mon pain. Je pense notamment à... Je viens d'ouvrir une boutique rue de Lévis, et dans cette boutique, je me suis attachée à l'intérieur, avec l'architecte avec lequel on a travaillé, on s'est attaché à recréer un petit peu cette ambiance, et la note d'intention, on va dire, c'était l'idée que tu rentres comme dans une grange où quelques heures plus tôt, il y aurait pu y avoir des ballots de paille. Mmh. Et ce que l'on veut, c'est planter des petites graines comme ça dans l'esprit des gens, que pour avoir ce pain qu'on a entre nos mains, il y a quelques heures, il y avait de la farine, que un peu plus tôt, il y avait du grain, et que jusqu'à un an avant, ce grain était dans la terre. Et ce sont toutes ces choses-là qu'on essaye d'expliciter avec... je pense que pour le coup, les réseaux sociaux sont une formidable opportunité de partager toute cette chaîne de valeur et construire l'évidence de toutes ces choses-là. Parce que quand tu sais que ça prend 6 heures pour faire une miche de pain, que notre levain a 90 ans, que ce sont des paires de mains qui ont façonné cette miche de pain, mais tu ne peux pas le gâcher. Mmh. Tu ne peux pas te dire ce morceau de pain, ce n'est pas grave, ça ne vaut rien, je peux me permettre de le jeter. Et là, du coup, tu deviens créatif et tu te dis, le morceau de pain, il est un peu trop dur, je n'ai pas envie de le manger, je le réduis en chapelure, ça me fera de la panure pour mes enfants, pour faire du poisson pané, ou j'en sais rien. Ou faire des petits croutons pour une salade au cœur de l'été. Et toutes ces petites choses-là, en fait, quand tu as la compréhension de cette chaîne de valeur, quand tu l'explicites, tu ne peux pas passer à côté. C'est juste pas possible. Et ça, c'est quelque chose où mes équipes, l'écran, l'emballage sont autant d'opportunités de partager avec nos clients ce que l'on fait. Expliciter, c'est l'évidence pour nous.
Mmh. Est-ce qu'il y a des choses en tant que leader de boîte, que tu as apprises et que tu aimerais partager, c'est-à-dire des choses où tu faisais peut-être des erreurs, tout simplement. Et ça peut être d'ailleurs, et je pense qu'on le ressent dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'acceptation de se dire que je ne suis pas parfaite, que je fais des erreurs, tu vois, cette vulnérabilité qui n'est pas si classique, en fait, dans les leaders d'entreprise qui sont censés, tu vois, il y a cette stature, ça peut être déjà un premier apprentissage de dire, vulnérabilité, et moi je crois que la vulnérabilité a vraiment sa place dans l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, ou peut-être que ça peut être ça, que tu as apprises et que tu aimerais partager de manière concrète ou...
Oui. Alors, d'évidence, ne serait-ce que dans la façon dont j'ai pris la suite de mes parents, la constance de l'inconstance. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Il faut être préparé à ce que tu n'as pas prévu. Et que ce soit en envisageant tous les scénarios catastrophes pour te muscler, ou tout simplement d'accepter que quand les choses ne vont pas de la façon dont tu l'envisages, faut revoir sa copie, c'est tout. Mmh. Et pas avoir peur de tester et d'essayer. Par exemple, quand on fabrique notre pain, par habitude et puis par appréhension du poids-volume, nos boulangers découpent un pâton de pâte qui correspond au poids-volume du pain. Et en fait, on se sert d'une vieille balance romaine qui est avec des poids pour vérifier qu'on est dans le bon écart type. Et alors, on se disait, est-ce qu'on gagnerait en précision si on utilisait une balance de précision ? Et on a fait cet essai pour voir, pour comprendre. Ouais. C'est un peu bête parce qu'on a toujours fait ça. On a fait cet essai il y a 3 ans. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on faisait ce geste-là parce que si on utilisait une balance électronique, c'est sûr qu'on gagnait en précision. Mais on était tellement obsédés par le chiffre, d'abord qu'on en oubliait nos ressentis, mais surtout qu'on prenait 4 fois plus de temps pour peser avec nos mains le pâton de pain. Et en finale, on perdait sur le rythme de la fabrication, de sorte que la fermentation n'était plus la bonne. Et donc du coup, en fait, la qualité du pain en était négativement impactée. Et je pense que cet esprit de tester, d'essayer de comprendre et de ne pas avoir peur de se tromper, ça fait partie des choses que certainement que mon père m'a appris, mais aussi de la façon dont les circonstances de la vie et puis le fait que j'ai pris la tête de Poilan à un jeune âge, donc j'ai pas été trop façonné tu le disais, des idées comme quoi il faut être toujours parfait ou il faut que tout soit nickel chrome. C'est pas vrai, on est humain, donc on fait au mieux et on s'adapte.
Et il y a une chose que tu dis qui me semble hyper importante. On en a toujours un tout petit peu parlé, mais en même temps, en fait, moi, comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de digital, j'ai passé énormément d'années pour convaincre les gens de s'y mettre, il y a une quinzaine d'années, de dire oui, mais on peut tout mesurer avec Internet, c'est super, nanana. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que même des choses qui ont du bon sens, si on n'arrive plus à les mesurer, on ne les fait plus. Mmh. Et en fait, il y a une sorte d'overdose, pour moi, en tout cas, des KPI, tu vois, de dire, mais si je ne peux pas mesurer, c'est que ce n'est pas vraiment valable. Alors qu'en fait, ce que tu décris, et c'est vachement intéressant, c'est que, parfois, on peut mesurer, mais en fait, on perd tellement en qualité. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire, tout n'est pas mesurable. Et tu vois, typiquement, les relations humaines, ce n'est pas mesurable.
Et c'est, alors, non seulement ça, et je pense qu'effectivement, les relations humaines, c'est le parfait exemple de quelque chose où c'est non seulement pas mesurable, mais il faut s'adapter et il faut se dire que on arrive avec des intentions, une autre personne arrive avec des intentions, et puis ensuite il y a ce que l'on co-crée, etc., etc. Et en fait, en réalité, moi, c'est ce que je trouve absolument excitant dans une entreprise, c'est que 1 plus 1, c'est l'opportunité de faire plus que 2. Et ça, c'est génial. Mais tu as raison de pointer du doigt le fait que, en fait, on peut mesurer tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, on ne peut pas s'affranchir d'une réflexion et que parfois, le chiffre n'est pas suffisant pour tout expliquer.
Et comment on se prépare? Tu parlais d'un monde qui est vulnérable, d'improbable, etc. Comment on se prépare, quand on est poil âne, au changement climatique? Enfin, qui est une réalité de tout de suite, hein. Mais aussi, tu vois, on ne peut pas ignorer ce qui se passe en Ukraine. Tu vois, il y a des conséquences, nécessairement, en particulier quand on fait du pain. Comment on se prépare à ça? Enfin, même dans une sorte d'état d'esprit, je pense qu'on ne peut pas vraiment se préparer à l'incertitude. Mais...
Non, bien sûr. Mais en fait, plusieurs choses. Déjà, nous avons 90 ans. Mon grand-père, lorsqu'il a commencé poil âne en 1932, était confronté à une agriculture qui était moins normée, moins outillée qu'aujourd'hui. Donc, que ce soit en ayant, par exemple, plusieurs meuniers dans plusieurs régions qui sont adjacentes au centre de Paris, ou tout simplement en envisageant des différents scénarios catastrophes. Je te donne un exemple très terrain comme très intellectuel pour te dire, mais en fait, c'est un peu la combinaison de tout ça qui fait qu'on construit notre résilience. C'est une forme de curiosité, mais c'est aussi de ne pas avoir peur non plus. Et je pense que ce sont toutes ces choses-là qui font que on construit une appréhension de ce que les choses sont inconstantes autour de nous. On sait que c'est la réalité de notre métier parce qu'on utilise du grain et que d'une année sur l'autre, depuis 90 ans,
ça change.
C'est tout différent. C'est un peu comme l'univers des vignerons où tu es lié aux... Enfin, la qualité de ta grappe de raisin est liée à la météo, c'est pareil pour le grain. Effectivement, il y a des enjeux mondiaux qui viennent se rajouter à cela. C'est pas très différent non plus que de quand tu es au fournil et que ta pâte pousse trop vite parce qu'il fait chaud et que tu vas essayer de trouver quelques subterfuges pour ralentir la fermentation et s'assurer que ça se fait dans des conditions qualitatives plutôt que juste... La pousse.
Et dernière question, c'est quoi le futur de poil âne? Comment tu l'envisages?
Alors, pour moi, mon entreprise, c'est ce carrefour entre les céréales et la fermentation, et c'est comment alimenter mon quartier, mais aussi une compréhension systémique, enfin, nourrir le corps, mais aussi l'esprit de mes clients. C'est partager cette espèce d'alphabet du grain au pain, du grain et de ses conséquences. Mais c'est aussi nourrir physiquement. J'avais, avant le Covid, un petit café et dans cet endroit-là, je nourrissais aussi un petit lieu d'inspiration pour que mes clients puissent découvrir quels sont les usages du pain au-delà de ta tartine de pain beurré trempée dans ton café chaque matin. Ce sont toutes ces petites choses et projets que je viens de nourrir, mais dont le cœur, la base, c'est les céréales et la magie de la fermentation.
Super. Merci beaucoup à toi.
Merci.